Chapitre 25. Du coin de l'œil, Callan vit la créature noire bondir vers le lit, tandis que Richard plongeait pour s'emparer de son épée. Dès qu'il eut refermé la main sur la poignée de l'arme, le sorcier se laissa glisser hors du lit, puis il tira la lame au clair. La note métallique, caractéristique de l'épée de vérité, déchira le silence tel un cri de rage qui fit frissonner Callan de la tête aux pieds. Richard se campa face à la menace. D'un signe de tête, il indiqua à sa femme de s'écarter de la trajectoire probable du monstre inconnu. Puis, il frappa, sa lame décrivant un arc de cercle à une vitesse prodigieuse. Le tranchant acéré coupa en deux la silhouette obscure, ou plutôt, il l'aurait coupée en deux si elle ne s'était pas dématérialisée en un clin d'œil. Haletant de fureur, la colère que lui insufflait son arme, Richard resta planté où il était. Sondant la chambre, Callan constata que l'ennemi obscur n'était plus là. Dans le silence revenu, l'inquisitrice entendit les roulements désormais lointains du tonnerre et les grésillements de la lampe posée sur la table de chevet. Callan balaya de nouveau la chambre du regard. La créature ne semblait plus être là, mais, dans le cas contraire, l'aurait-elle distinguée dans la pénombre?
« Je n'ai pas l'impression qu'on nous épie, Richard. »«
Moi non plus. La créature est partie. »« Oui, mais pour combien de temps ?» Au fond, songea Callan, elle pouvait réapparaître à tout moment et n'importe où dans la pièce.
« Richard, qu'est-ce que c'était selon toi ?»
Se levant, Callan caressa fugitivement le bras de son mari, puis elle approcha de la table et régla la lampe au maximum. Profitant de la lumière, le sourcier, sans rengainer son arme, procéda à une ultime inspection de la chambre. « Je donnerais cher pour le savoir, » dit-il en se décidant enfin à rengainer l'épée de vérité. « Je détesterais devoir sonder tous les coins sombres et sursauter à tous les bruits en me demandant si la menace est réelle ou si je délire. »
« Ça me rappelle mon enfance quand j'avais peur des monstres imaginaires cachés dans mon lit. »«
Une bonne comparaison à un détail près. »«
Lequel ?»«
Ce monstre n'était pas imaginaire. Nous l'avons tous les deux senti. Et vu. Il était bien là. »«
C'était le même que la première fois, tu crois ?»
Richard tourna la tête vers sa compagne. « Tu veux savoir si la créature imaginaire de ce soir était la même que celle d'hier ?» Malgré son inquiétude, Callan ne put s'empêcher de sourire.
« Présenté comme ça, c'est un peu ridicule, non ?»«
Ridicule ou non, oui. Je pense que c'est l'espion d'hier. »«
Mais hier, nous ne l'avons pas vu. Pourquoi nous a-t-il dévoilé sa présence ?»
Richard ne sut que répondre. Tout en se frottant frileusement les bras, Callan vint se serrer contre son mari.
« Si nous ne savons pas ce qui se passe, » ni même qui s'introduit dans notre chambre pour nous épier, comment mettre un terme à tout ça? Nous risquons de ne plus jamais dormir en paix. »
Le sourcier enlaça Callan. « Je sais, mais je n'y peux rien. Et sache que je le regrette. »
« Richard, j'ai une idée. Au palais, le pouvoir de Zed est affaibli, mais Nathan est un râle, lui. Ici, il est encore plus puissant. Nous devrions l'installer dans une chambre attenante à la nôtre. Il sentira peut-être la présence de cette créature. » Qui sait, il saura peut-être la débusquer. Par exemple, en la localisant pendant qu'elle nous espionne et en envoyant des hommes la capturer.
Je doute que ça fonctionne.
Pourquoi ?
Parce que nos ennemis, selon moi, ne sont pas dans le palais. Comme tu l'as souligné, ici, le pouvoir des râles est amplifié et celui des autres perd son efficacité. À mon avis, l'espion est une sorte de projection envoyée par des adversaires qui ne résident pas entre ces murs.
Donc il n'y a rien à faire contre eux ? « Nous devrons supporter d'être épiés chaque nuit ?»
Richard serra les mâchoires pour contenir sa rage. « Le jardin de la vie est protégé par un champ de force permanent, » dit-il enfin. « Ça nous mettrait peut-être à l'abri des regards indiscrets. » Callan parut séduite par l'idée.
« Ces champs protecteurs ont pour objectif premier d'interdire à toute magie, si puissante fût-elle, d'entrer ou de sortir. »
« Donc, en toute logique, » murmura Richard.
« Pour être vraiment seul avec toi et pouvoir me reposer, je veux bien dormir sur l'herbe dans un sac de couchage. »«
Je partage cette opinion, » fit Richard. « Je crois que nous devrions essayer. »«
Top là !»
dit simplement Callan avant de commencer à se rhabiller. Richard s'empara de son pantalon et l'enfila. « J'aimerais quand même savoir quelle personne ou quelle entité, à moins que ce soit les prophéties elles-mêmes, s'amuse comme ça avec nous. » Callan ouvrit une armoire et en sortit ses vieux vêtements de voyage.
Les prophéties essaient peut-être de nous aider.
Richard fronça les sourcils comme s'il n'était pas convaincu.
Ce qui m'inquiète, confessa-t-il en ramassant sa chemise, c'est que des prédictions qui semblent annoncer la même chose utilisent des mots différents. L'un parle de la chute du toit et l'autre de la chute du ciel. Ce n'est pas du tout la même chose, tu en conviendras.
Mais il y a un point commun, c'est la chute, et tu seras là aussi d'accord.
Et entre un toit et le ciel, il y a des similitudes, pourrait-on dire.
C'est peut-être une question de traduction. Le mot d'origine avait peut-être plusieurs sens, et on n'a pas choisi le même chaque fois, ou il peut s'agir de références indirectes.
Et si c'était dans les deux cas des métaphores ? Avança Richard en enfilant une botte.
Des métaphores ?
Répéta Callan en boutonnant son pantalon de voyage.
Oui, comme celle qui parle de la fierge et du paon.
De toute évidence, cette prédiction concerne la tueuse que tu as touchée avec ton pouvoir. Le mot paon ou pion est une façon de dire qu'elle n'est qu'une marionnette.
Et celui ou ceux qui tirent les ficelles tenaient à ce que tous nos invités de marque assistent au spectacle.
Tu penses que toi est une métaphore pour ciel ou le contraire?
C'est possible. On parle bien du toit du monde dans des poésies.
Si tu as raison, que signifie la prédiction?
Eh bien,
et si c'était le monde qui menaçait de s'écrouler?
Callan n'aima pas du tout cette hypothèse. Les deux individus se pétrifièrent soudain en entendant un grognement étouffé de l'autre côté de la porte. Puis quelque chose percuta les deux battants. Un instant, Callan redouta qu'ils soient arrachés à leurs gonds, mais ils résistèrent.
Qu'est-ce que c'était?
Je n'en sais rien,
souffla Richard, sa main volant vers la poignée de son épée.
Allons voir.
Le sourcier entrebâilla la porte juste assez pour qu'il puisse jeter un coup d'œil dans le couloir vivement éclairé par les lampes à réflecteurs.
Du coin de l'œil, Callan vit que des hommes armés couraient en tous sens dans le couloir. Des traînées de sang maculaient les murs et le sol. Au pied des deux jeunes gens, le cadavre d'un gros chien noir gisait contre la porte. Deux piques étaient enfoncées dans ses flancs et du sang sourdait de plusieurs autres blessures.
Richard finit d'ouvrir la porte, la tête du molosse mort tombant à moitié dans la chambre.
Un officier vit Richard et Callan sur le seuil de la pièce et courut vers eux.
« Seigneur Hall, je suis désolé. »
« Que se passe-t-il ? » ?
« Ce chien courait dans les couloirs, menaçant tous les gens qu'il croisait. Nous avons dû l'abattre au bout du compte. »«
D'où venait-il ? »
demanda Callan.
« Il peut appartenir à un des marchands ambulants. Quand les gens se sont réfugiés à l'intérieur du haut plateau à cause de la tempête, ils ont bien entendu amener leurs animaux. Les chevaux et les mules sont dans des écuries, mais les chiens ont eu le droit de rester avec leur maître. Certains ont dû profiter de la confusion pour s'échapper, et celui-là est parvenu jusqu'ici. »
Richard s'accroupit et passa une main dans la fourrure poisseuse de sang de l'animal. Même mort, il montrait toujours les crocs. Ce n'était pourtant pas une raison pour mourir ainsi.
Ce pauvre chien a échappé à ses propriétaires?
C'est ce que je pense, Seigneur Hall. Nous l'avons repéré alors qu'il courait en direction de ce secteur, mais il a été impossible de l'intercepter. Il a fallu l'abattre, hélas. Navré de vous avoir dérangé en pleine nuit.
Aucun problème,
fit Richard.
De toute façon, nous allions partir pour le jardin de la vie.
Il caressa de nouveau le chien mort.
Dommage pour ce pauvre cabot.
Même si les explications de l'officier tenaient la route, Callan ne put s'empêcher de songer à la prédiction de la tueuse.
Des monstres noirs qui te traquent et que tu ne pourras pas semer.